Chapitre 3. Dans la semaine suivante, après la messe de mariage qui, selon l'usage de quelques familles du faubourg Saint-Germain, fut célébrée à 7 heures à Saint-Thomas-d'Aquin, Calliste et Sabine montèrent dans une jolie voiture de voyage, au milieu des embrassements, des félicitations et des larmes, de 20 personnes attroupées ou groupées sous la marquise de l'hôtel de Grandlieu. Les félicitations venaient des 4 témoins et des hommes, les larmes se voyaient dans les yeux de la duchesse de Grandlieu, de sa fille Clotilde, qui toutes deux tremblaient agitées par la même pensée. La voilà lancée dans la vie, pauvre Sabine, elle est à la merci d'un homme qui ne s'est pas tout à fait marié de son plein gré. Le mariage ne se compose pas seulement de plaisirs aussi fugitifs dans cet état que dans tout autre, il implique des convenances d'humeur, des sympathies physiques, des concordances de caractère qui font de cette nécessité sociale un éternel problème. Les filles à marier, aussi bien que les mères, connaissent les termes et les dangers de cette loterie. Voilà pourquoi les femmes pleurent à un mariage, tandis que les hommes sourient. Les hommes croient ne rien hasarder, les femmes savent bien tout ce qu'elles risquent. Dans une autre voiture qui précédait celle des mariés, se trouvait la baronne du Guénic, à qui la duchesse vint dire « Vous êtes mère, quoique vous n'ayez eu qu'un fils, tâchez de me remplacer près de ma chère Sabine. » Sur le devant de cette voiture, on voyait un chasseur qui servait de courrier, et à l'arrière, 2 femmes de chambre, à qui les cartons et les paquets mis par-dessus les vaches cachaient le paysage. Les 4 postillons, vêtus de leurs plus beaux uniformes, car chaque voiture était attelée de 4 chevaux, portaient tous des bouquets à leurs boutonnières et des rubans à leurs chapeaux, que le duc de Grandlieu eut 1000 peines à leur faire quitter, même en les payant. Le postillon français est éminemment intelligent, mais il tient à ses plaisanteries. Ceux-là prirent l'argent, et à la barrière, ils remirent leurs rubans. « Allons, adieu, Sabine, dit la duchesse. Souviens-toi de ta promesse, écris-moi souvent. Calliste, je ne vous dis plus rien, mais vous me comprenez. » Clotilde, appuyée sur sa plus jeune sœur Athénaïs, à qui souriait le vicomte juste de Grandlieu, jeta sur la mariée un regard fin à travers ses larmes et suivit des yeux la voiture qui disparut au milieu des batteries réitérées de 4 fouets plus bruyants que des pistolets de tir. En quelques secondes, le gai convoi atteignit à l'esplanade des Invalides, gagna par le quai le pont d'Iéna, la barrière de Passy, la route de Versailles, enfin, le grand chemin de la Bretagne. N'est-il pas au moins singulier que les artisans de la Suisse et de l'Allemagne, que les grandes familles de France et d'Angleterre, obéissent au même usage et se mettent en voyage après la cérémonie nuptiale? Les grands se tassent dans une boîte qui roule. Les petits s'en vont gaiement par les chemins, s'arrêtant dans les bois, banquetant à toutes les auberges, tandis que dure leur joie, ou plutôt leur argent. Le moraliste serait fort embarrassé de décider où se trouve la plus belle qualité de pudeur, dans celle qui se cache au public en inaugurant le foyer et la couche domestique, comme font les bons bourgeois, ou dans celle qui se cache à la famille en se publiant au grand jour des chemins, à la face des inconnus. Les âmes délicates doivent désirer la solitude et fuir également le monde et la famille. Le rapide amour qui commence un mariage est un diamant, une perle, un joyau ciselé par le premier des arts, un trésor à enterrer au fond du cœur. Qui peut raconter une lune de miel, si ce n'est la mariée? Et combien de femmes reconnaîtront ici que cette saison d'incertaine durée, il y en a d'une seule nuit, est la préface de la vie conjugale? Les 3 premières lettres de Sabine à sa mère accuseront une situation qui, malheureusement, ne sera pas neuve pour quelques jeunes mariés et pour beaucoup de vieilles femmes. Toutes celles qui se sont trouvées, pour ainsi dire, gardes malades d'un cœur, ne s'en sont pas comme Sabine aperçue aussitôt. Mais les jeunes filles du faubourg Saint-Germain, quand elles sont spirituelles, sont déjà femmes par la tête. Avant le mariage, elles ont reçu du monde et de leur mère le baptême des bonnes manières. Les duchesses jalouses de léguer leur tradition ignorent souvent la portée de leurs leçons quand elles disent à leurs filles « Tel mouvement ne se fait pas. Ne riez pas de ceci. On ne se jette jamais sur un divan. On s'y pose. Quittez ces détestables façons. Mais cela ne se fait pas, ma chère, etc. » Aussi de bourgeois critiques ont-ils injustement refusé de l'innocence et des vertus à des jeunes filles qui sont uniquement, comme Sabine, des vierges perfectionnées par l'esprit, par l'habitude des grands airs, par le bon goût, et qui, dès l'âge de 16 ans, savaient se servir de leurs jumelles. Sabine, pour s'être prêtée aux combinaisons inventées par Mademoiselle des Touches pour la mariée, devait être de l'école de Mademoiselle de Chaulieu. Cette finesse innée, ces dons de race, rendront peut-être cette jeune femme aussi intéressante que l'héroïne des mémoires de 2 jeunes mariées, lorsqu'on verra l'inutilité de ces avantages sociaux dans les grandes crises de la vie conjugale, où souvent ils sont annulés sous le double poids du malheur et de la passion. À Madame la Duchesse de Grandlieu, Guérande, avril 1838. Chère mère, vous saurez bien comprendre pourquoi je n'ai pu vous écrire en voyage. Notre esprit est alors comme les roues. Me voici depuis 2 jours au fond de la Bretagne, à l'hôtel du Guénic, une maison brodée comme une boîte en coco. Malgré les attentions affectueuses de la famille de Caliste, j'éprouve un vif besoin de m'envoler vers vous, de vous dire une foule de ces choses qui, je le sens, ne se confient qu'à une mère. Caliste s'est marié, chère maman, en conservant un grand chagrin dans le cœur. Personne de nous ne l'ignorait, et vous ne m'avez pas caché les difficultés de ma conduite. Hélas, elles sont plus grandes que vous ne le supposiez. Ah, chère maman, quelle expérience nous acquérons en quelques jours, et pourquoi ne vous dirais-je pas en quelques heures? Toutes vos recommandations sont devenues inutiles, et vous devinerez comment par cette seule phrase « J'aime Caliste comme s'il n'était pas mon mari ». C'est-à-dire que si, mariée à un autre, je voyageais avec Caliste, je l'aimerais et haïrais mon mari. Observez donc un homme aimé si complètement, involontairement, absolument, sans compter tous les autres adverbes qu'il vous plaira d'ajouter. Aussi ma servitude s'est-elle établie en dépit de vos bons avis. Vous m'aviez recommandé de rester grande, noble, digne et fière, pour obtenir de Caliste des sentiments qui ne seraient sujets à aucun changement dans la vie. L'estime, la considération, qui doivent sanctifier une femme au milieu de la famille. Vous vous étiez élevée avec raison sans doute contre les jeunes femmes d'aujourd'hui qui, sous prétexte de bien vivre avec leur mari, commencent par la facilité, par la complaisance, la bonhomie, la familiarité, par un abandon un peu trop fille selon vous. Un mot que je vous avoue n'avoir pas encore compris, mais nous verrons plus tard, et qui, s'il faut vous en croire, en font comme des relais pour arriver rapidement à l'indifférence et au mépris peut-être. « Souviens-toi que tu es une Grandlieu, m'avez-vous dit à l'oreille. » Ces recommandations pleines de la maternelle éloquence de Dédalus ont eu le sort de toutes les choses mythologiques. Chère mère aimée, pouviez-vous supposer que je commencerais par cette catastrophe qui termine, selon vous, la lune de miel des jeunes femmes d'aujourd'hui? Quand nous nous sommes vus seuls dans la voiture, Caliste et moi nous nous sommes trouvés aussi sots l'un que l'autre, en comprenant toute la valeur d'un premier mot, d'un premier regard, et chacun de nous, sanctifié par le sacrement, a regardé par sa portière. C'était si ridicule que, vers la barrière, monsieur m'a débité d'une voix peu troublée un discours, sans doute préparé comme toutes les improvisations, que j'écoutais le cœur palpitant et que je prends la liberté de vous abréger. Ma chère Sabine, je vous veux heureuse et je veux surtout que vous soyez heureuse à votre manière, a-t-il dit. Ainsi, dans la situation où nous sommes, au lieu de nous tromper mutuellement sur nos caractères et sur nos sentiments par de nobles complaisances, soyons tous deux ce que nous serions dans quelques années d'ici. Figurez-vous que vous avez un frère en moi. Comme moi, je veux voir une sœur en vous. » Quoique ce fût plein de délicatesse, comme je ne trouvais rien dans ce premier speech de l'amour conjugal qui répondit à l'empressement de mon âme, je demeurai pensive après avoir répondu que j'étais animée des mêmes sentiments. Sur cette déclaration de nos droits à une mutuelle froideur, nous avons parlé pluie et beau temps, poussière, relais et paysage, le plus gracieusement du monde, moi riant d'un petit rire forcé, lui très rêveur. Enfin, en sortant de Versailles, je demandai tout bonnement à Caliste, que j'appelais mon cher Caliste, comme il m'appelait ma chère Sabine, s'il pouvait me raconter les événements qui l'avaient mis à 2 doigts de la mort et auxquels je savais devoir le bonheur d'être sa femme. Il hésita pendant longtemps. Ce fut entre nous l'objet d'un petit débat, qui dura pendant 3 relais. Moi, tâchant de me poser en fille volontaire et décidée à bouder, lui, se consultant sur la fatale question portée comme un défi par les journaux à Charles X, le roi cédera-t-il? Enfin, après le relais de Verneuil, et après avoir échangé des serments à contenter 3 dynasties, de ne jamais lui reprocher cette folie, de ne pas le traiter froidement, etc., il me peignit son amour pour Madame de Rochegude. « Je ne veux pas, me dit-il en terminant, qu'il y ait de secret entre nous. Le pauvre cher Caliste, ignorait-il donc que son amie Mademoiselle des Touches et vous, vous aviez été obligés de me tout avouer, car on n'habille pas une jeune personne comme je l'étais le jour du contrat, sans l'initier à son rôle. On doit tout dire à une mère aussi tendre que vous. Eh bien, je fus profondément atteinte en voyant qu'il avait obéi beaucoup moins à mon désir qu'à son envie de parler de cette passion inconnue. Me blâmerez-vous, ma mère chérie, d'avoir voulu reconnaître l'étendue de ce chagrin, de cette vive plaie du cœur que vous m'aviez signalée? Donc, 8 heures après avoir été bénie par le curé de Saint-Thomas d'Aquin, votre Sabine se trouvait dans la situation assez fausse d'une jeune épouse écoutant de la bouche même de son mari la confidence d'un amour trompé, les méfaits d'une rivale. Oui, j'étais dans le drame d'une jeune femme apprenant officiellement qu'elle devait son mariage au dédain d'une vieille blonde. À ce récit, j'ai gagné ce que je cherchais. Quoi, direz-vous? Ah, chère mère, j'ai bien vu assez d'amour s'entraînant les uns les autres sur des pendules ou sur des dévans de cheminée pour mettre cet enseignement en pratique. Calyste a terminé le poème de ses souvenirs par la plus chaleureuse protestation d'un entier oubli de ce qu'il a nommé sa folie. Toute protestation a besoin de signature. L'heureuse infortunée m'a pris la main, l'a portée à ses lèvres, puis il l'a gardée entre ses mains pendant longtemps. Une déclaration s'en est suivie. Celle-là m'a semblé plus conforme que la première à notre état civil, quoique nos bouches n'aient pas dit une seule parole. J'ai dû ce bonheur à ma verveuse indignation sur le mauvais goût d'une femme assez sotte pour ne pas avoir aimé mon beau, mon ravissant Calyste. On m'appelle pour jouer à un jeu de cartes que je n'ai pas encore compris. Je continuerai demain. Vous quittez dans ce moment pour faire la 5e à la mouche. Ceci n'est possible qu'au fond de la Bretagne. Je reprends le cours de mon odyssée. La 3e journée, vos enfants n'employaient plus le « vous » cérémonieux mais le « tu » des amants. Ma belle-mère, enchantée de nous voir heureux, a tâché de se substituer à vous, chère mère, et comme il arrive à tous ceux qui prennent un rôle avec le désir d'effacer des souvenirs, elle a été si charmante qu'elle a presque été vous pour moi. Sans doute elle a deviné l'héroïsme de ma conduite, car au début du voyage, elle cachait trop ses inquiétudes pour ne pas les rendre visibles par l'excès des précautions. Quand j'ai vu surgir les tours de Guérande, j'ai dit à l'oreille de votre gendre « L'as-tu bien oublié ?» Mon mari, devenu mon ange, ignorait sans doute les richesses d'une affection naïve et sincère, car ce petit mot l'a rendu presque fou de joie. Malheureusement, le désir de faire oublier Madame de Rochegude m'a mené trop loin. Que voulez-vous? J'aime, et je suis presque portugaise, car je tiens plus de vous que de mon père. Calyste a tout accepté de moi, comme acceptent les enfants gâtés. Il est fils unique d'abord. Entre nous, je ne donnerai pas ma fille, si jamais j'ai des filles, à un fils unique. C'est bien assez de se mettre à la tête d'un tyran, et j'en vois plusieurs dans un fils unique. Ainsi donc nous avons interverti les rôles. Je me suis comportée comme une femme dévouée. Il y a des dangers dans un dévouement dont on profite. On y perd sa dignité. Je vous annonce donc le naufrage de cette demi-vertu. La dignité n'est qu'un paravent placé par l'orgueil et derrière lequel nous enrageons à notre aise. Que voulez-vous, maman? Vous n'étiez pas là, je me voyais devant un abîme. Si j'étais restée dans ma dignité, j'aurais eu les froides douleurs d'une sorte de fraternité qui certes serait tout simplement devenue de l'indifférence. Et quel avenir me serais-je préparé? Mon dévouement a eu pour résultat de me rendre l'esclave de Calyste. Reviendrai-je de cette situation? Nous verrons. Quant à présent, elle me plaît. J'aime Calyste, je l'aime absolument avec la folie d'une mère qui trouve bien tout ce que fait son fils, même quand elle est un peu battue par lui. 15 mai. Jusqu'à présent donc, chère maman, le mariage s'est présenté pour moi sous une forme charmante. Je déploie toute ma tendresse pour le plus beau des hommes, qu'une sotte a dédaigné pour un croque-note, car cette femme est évidemment une sotte, et une sotte froide, la pire espèce de sotte. Je suis charitable dans ma passion légitime, je guéris des blessures en m'en faisant d'éternel. Oui, plus j'aime Calyste, plus je sens que je mourrais de chagrin si notre bonheur actuel cessait. Je suis d'ailleurs l'adoration de toute cette famille et de la société qui se réunit à l'hôtel du Guénic, tout personnage né dans des tapisseries de haute lisse et qui s'en sont détachés pour prouver que l'impossible existe. Un jour où je serai seule, je vous peindrai ma tante Zéphirine, mademoiselle de Penwell, le chevalier du Halga, les demoiselles Kergarouët, etc. Il n'y a pas jusqu'aux deux domestiques qu'on me permettra, je l'espère, d'emmener à Paris, Mariotte et Gasselin, qui ne me regardent comme un ange descendu de sa place dans le ciel et qui tressaillent encore quand je leur parle, qui ne soient des figures à mettre sous verre. Ma belle-mère nous a solennellement installés dans les appartements précédemment occupés par elle et par feu son mari. Cette scène a été touchante. « J'ai vécu toute ma vie de femme, heureuse ici, nous a-t-elle dit. Que ce vous soit un heureux présage, mes enfants. » Et elle a pris la chambre de Calyste. Cette sainte femme semblait vouloir se dépouiller de ses souvenirs et de sa noble vie conjugale pour nous en investir. La province de Bretagne, cette ville, cette famille de mœurs antiques, tout, malgré des ridicules qui n'existent que pour nous autres rieuses parisiennes, a quelque chose d'inexplicable, de grandiose jusque dans ces minuties qu'on ne peut définir que par le mot sacré. Tous les tenanciers des vastes domaines de la maison du Guénic, rachetés comme vous savez par Mademoiselle des Touches que nous devons aller voir à son couvent, sont venus encore nous saluer. Ces braves gens en habits de fête, exprimant tous une vive joie de savoir Caliste redevenu réellement leur maître, m'ont fait comprendre la Bretagne, la féodalité, la vieille France. Ce fut une fête que je ne veux pas vous peindre, je vous la raconterai. La base de tous les beaux a été proposée par ces gars eux-mêmes. Nous les signerons après l'inspection que nous allons passer de nos terres engagées depuis 150 ans. Mademoiselle de Penouël nous a dit que les gars avaient accusé les revenus avec une véracité peu croyable à Paris. Nous partirons dans 3 jours et nous irons à cheval. À mon retour, chère mère, je vous écrirai. Mais que pourrais-je vous dire si déjà mon bonheur est au comble? Je vous écrirai donc ce que vous savez déjà, c'est-à-dire combien je vous aime. 2. De la même à la même. Nantes, juin. Après avoir joué le rôle d'une châtelaine adorée de ses vassaux, comme si la révolution de 1830 et celle de 1789 n'avaient jamais abattu de bannière, après des cavalcades dans les bois, des haltes dans les fermes, des dîners sur de vieilles tables et sur du linge centenaire pliant sous des platées homériques servies dans de la vaisselle antédiluvienne, après avoir bu des vins exquis dans des gobelets comme en manient les faiseurs de Tours, et des coups de fusil au dessert, et des « Vive les du Guénic » à étourdir, et des balles dont tout l'orchestre est un biniou dans lequel un homme souffle pendant des 10 heures de suite, et des bouquets, et des jeunes mariés qui se sont fait bénir par nous, et de bonnes lassitudes dont le remède se trouve au lit en des sommeils que je ne connaissais pas, et des réveils délicieux où l'amour est radieux comme le soleil qui rayonne sur vous et scintille avec 1000 mouches qui bourdonnent en bas breton. Enfin, après un grotesque séjour au château du Guénic où les fenêtres sont des portes cochères et où les vaches pourraient paître dans les prairies de la salle, mais que nous avons juré d'arranger, de réparer, pour y venir tous les ans aux acclamations des gars du clan du Guénic dont l'importait notre bannière, je suis à Nantes. Ah, quelle journée que celle de notre arrivée au Guénic! Le recteur est venu, ma mère avec son clergé, tous couronnés de fleurs, nous recevoir, nous bénir, en exprimant une joie. J'en ai les larmes aux yeux en t'écrivant. Et ce fier Caliste, qui jouait son rôle de seigneur comme un personnage de Walter Scott. Monsieur recevait les hommages comme s'il se trouvait en plein XIIIe siècle. J'ai entendu les filles, les femmes, se disant « Quel joli seigneur nous avons !» comme dans un chœur d'opéra comique. Les anciens discutaient entre eux la ressemblance de Caliste avec les du Guénic qu'ils avaient connus. Ah, la noble et sublime Bretagne! Quel pays de croyances et de religions! Mais le progrès la guette, on y fait des ponts, des routes, les idées viendront, et adieu le sublime. Les paysans ne seront certes jamais ni si libres ni si fiers que je les ai vus, quand on leur aura prouvé qu'ils sont les égaux de Caliste, si toutefois ils veulent le croire. Après le poème de cette restauration pacifique et les contrats signés, nous avons quitté ce ravissant pays toujours fleuri, gai, sombre et désert tour à tour, et nous sommes venus agenouiller ici notre bonheur devant celle à qui nous le devons. Caliste et moi, nous éprouvions le besoin de remercier la postulante de la visitation. En mémoire d'elle, il écartèlera son écu de celui des Touches, qui est partie coupée, tranchée, taillée d'or et de sinople. Il prendra l'un des aigles d'argent pour un de ses supports et lui mettra dans le bec cette jolie devise de femme. Souviennez-vous. Nous sommes donc allés hier au couvent des Dames de la Visitation, où nous a mené l'abbé Grimont, un ami de la famille du Guénic, qui nous a dit que votre chère Félicité, maman, était une sainte. Elle ne peut pas être autre chose pour lui, puisque cette illustre conversion l'a fait nommer vicaire général du diocèse. Mademoiselle des Touches n'a pas voulu recevoir Caliste, et n'a vu que moi. Je l'ai trouvée un peu changée, pâlie et maigrie. Elle m'a paru bien heureuse de ma visite. « Dis à Caliste, s'est-elle écriée tout bas, que c'est une affaire de conscience et d'obéissance, si je ne le veux pas voir, car on me l'a permis, mais je préfère ne pas acheter ce bonheur de quelques minutes par des mois de souffrance. Ah, si tu savais combien j'ai de peine à répondre quand on me demande « À quoi pensez-vous » La maîtresse des novices ne peut pas comprendre l'étendue et le nombre des idées qui me passent par la tête comme des tourbillons. Par instant, Je revois l'Italie ou Paris avec tous leurs spectacles, tout en pensant à Calliste qui, dit-elle avec cette façon poétique si admirable et que vous connaissez, est le soleil de ses souvenirs. J'étais trop vieille pour être acceptée au Carmélite, et je me suis donnée à l'ordre de saint François de Sales uniquement parce qu'il a dit « Je vous déchausserai la tête au lieu de vous déchausser les pieds », en se refusant à ces austérités qui brisent le corps. C'est en effet la tête qui pêche. Le Saint-Évêque a donc bien fait de rendre sa règle austère pour l'intelligence et terrible contre la volonté. Voilà ce que je désirais, car ma tête est la vraie coupable. Elle m'a trompée sur mon cœur jusqu'à cet âge fatal de 40 ans, où, si l'on est pendant quelques moments 40 fois plus heureuse que les jeunes femmes, on est plus tard 50 fois plus malheureuse qu'elles. « Eh bien, mon enfant, es-tu contente ? » m'a-t-elle demandé, en cessant avec un visible plaisir de parler d'elle. Vous me voyez dans l'enchantement de l'amour et du bonheur, lui ai-je répondu. Calliste est aussi bon et naïf qu'il est noble et beau, m'a-t-elle dit gravement. Je t'ai institué mon héritière, tu possèdes, outre ma fortune, le double idéal que j'ai rêvé. Je m'applaudis de ce que j'ai fait, a-t-elle repris après une pause. Maintenant, mon enfant, ne t'abuse pas. Vous avez facilement saisi le bonheur, vous n'aviez que la main à étendre, mais pense à le conserver. Quand tu ne serais venu ici que pour en remporter les conseils de mon expérience, ton voyage serait bien payé. Calliste subit en ce moment une passion communiquée, tu ne l'as pas inspirée. Pour rendre ta félicité durable, tâche, ma petite, d'unir ce principe au premier. Dans votre intérêt à tous deux, essaie d'être capricieuse, sois coquette, un peu dure, il le faut. Je ne te conseille pas d'odieux calcul, ni la tyrannie, mais la science. Entre l'usure et la prodigalité, ma petite, il y a l'économie. Sache prendre honnêtement un peu d'empire sur Calliste. Voici les dernières paroles mondaines que je prononcerai. Je les tenais en réserve pour toi, car j'ai tremblé dans ma conscience de t'avoir sacrifié pour sauver Calliste. Attache-le bien à toi, qu'il ait des enfants, qu'il respecte en toi leur mère. Enfin, me dit-elle d'une voix émue, arrange-toi de manière à ce qu'il ne revoie jamais Béatrix. Ce nom nous a plongés toutes les deux dans une sorte de torpeur, et nous sommes restés les yeux dans les yeux, l'une de l'autre, échangeant la même inquiétude vague. « Retournez-vous à Guérande ?» me demanda-t-elle. « Oui, lui dis-je. »« Eh bien, n'allez jamais aux touches. J'ai eu tort de vous donner ce bien. »« Et pourquoi ?»« Enfant, les touches sont pour toi le cabinet de Barbe Bleue, car il n'y a rien de plus dangereux que de réveiller une passion qui dort. » Je vous donne en substance, chère mère, le sens de notre conversation. Si Mademoiselle des Touches m'a fait beaucoup causer, elle m'a donné d'autant plus à penser que, dans l'enivrement de ce voyage et de mes séductions avec mon Calliste, j'avais oublié la grave situation morale dont je vous parlais dans ma première lettre. Après avoir bien admiré Nantes, une charmante et magnifique ville, après être allé voir sur la place Bretagne l'endroit où Charette est si noblement tombée, nous avons projeté de revenir par la Loire à Saint-Nazaire, puisque nous avions fait déjà par terre la route de Nantes à Guérande. Décidément, un bateau à vapeur ne vaut pas une voiture. Le voyage en public est une invention du monstre moderne, le monopole. Trois jeunes dames de Nantes, assez jolies, se démenaient sur le pont, atteintes de ce que j'ai appelé le kergarouettisme, une plaisanterie que vous comprendrez quand je vous aurai peint les kergarouettes. Calliste s'est très bien comporté. En vrai gentilhomme, il ne m'a pas affiché. Quoique satisfaite de son bon goût, de même qu'un enfant à qui l'on a donné son premier tambour, j'ai pensé que j'avais une magnifique occasion d'essayer le système recommandé par Camille Maupin, car ce n'est certes pas la postulante qui m'avait parlé. J'ai pris un petit air boudeur, et Calliste s'en est très gentiment alarmé. À cette demande, « Qu'as-tu ?» jetée à mon oreille, j'ai répondu la vérité, « Je n'ai rien !» et j'ai bien reconnu là le peu de succès qu'obtient d'abord la vérité. Le mensonge est une arme décisive dans les cas où la célérité doit sauver les femmes et les empires. Calliste est devenu très pressant, très inquiet. Je l'ai mené à l'avant du bateau, dans un tas de cordages. Et là, d'une voix pleine d'alarmes, sinon de larmes, je lui ai dit les malheurs, les craintes d'une femme dont le mari se trouve être le plus beau des hommes. « Ah, Calliste, me suis-je crié, il y a dans notre union un affreux malheur. Vous ne m'avez pas aimé, vous ne m'avez pas choisi. Vous n'êtes pas resté planté sur vos pieds comme une statue en me voyant pour la première fois. C'est mon cœur, mon attachement, ma tendresse qui sollicite votre affection. Et vous me punirez quelque jour de vous avoir apporté moi-même les trésors de mon pur, de mon involontaire amour de jeune fille. Je devrais être mauvaise, coquette, et je ne me sens pas de force contre vous. Si cette horrible femme qui vous a dédaigné se trouvait à ma place ici, vous n'auriez pas aperçu ces deux affreuses bretonnes que l'octroi de Paris classerait parmi le bétail. Calyste, ma mère, a eu deux larmes dans les yeux, il s'est retourné pour me les cacher, il a vu la basse Indre et a couru dire au capitaine de nous y débarquer. On ne tient pas contre de telles réponses, surtout quand elles sont accompagnées d'un séjour de 3 heures dans une chétive auberge de la basse Indre où nous avons déjeuné de poissons frais dans une petite chambre, comme en peignent les peintres de genre, et par les fenêtres de laquelle on entendait mugir les forges d'Indrée à travers la belle nappe de la Loire. En voyant comment tournaient les expériences de l'expérience, je me suis écriée « Ah, chère Félicité !» Calyste, incapable de soupçonner les conseils de la religieuse et la duplicité de ma conduite, a fait un divin calembour. Il m'a coupé la parole en me répondant « Gardons-en le souvenir, nous enverrons un artiste pour copier ce paysage. » Non, j'ai ri, chère maman, et je l'ai vu bien près de se fâcher. Mais, lui dis-je, il y a de ce paysage, de cette scène, un tableau dans mon cœur qui ne s'effacera jamais et d'une couleur inimitable. Ah, ma mère, il m'est impossible de mettre ainsi les apparences de la guerre ou de l'inimitié dans mon amour. Calyste fera de moi tout ce qu'il voudra. Cette larme est la première, je pense, qu'il m'est donnée. Ne vaut-elle pas mieux que la seconde déclaration de nos droits? Une femme sans cœur serait devenue dame et maîtresse après la scène du bateau. Moi, je me suis reperdue. D'après votre système, plus je deviens femme, plus je me fais fille, car je suis affreusement lâche avec le bonheur. Je ne tiens pas contre un regard de mon Seigneur. Non, je ne m'abandonne pas à son amour. Je m'y attache comme une mère presse son enfant contre son sein en craignant quelque malheur. »